Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis ici pour écouter Peggy Tessier, qui est philosophe, ingénieur d'études à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques à Paris. Elle va présenter son livre paru l'année dernière,
2015.
2015, donc il y a 2 ans, Le corps accidenté, bouleversement identitaire et reconstruction de soi. Cette rencontre est organisée dans le cadre du master soins éthiques santé enseigné à l'université Bordeaux-Montaigne en partenariat avec la librairie Mola. Et je tiens à remercier la librairie qui nous accueille dans cette très jolie salle. Voilà, je donne immédiatement la parole à Peggy pour une présentation de son ouvrage.
Merci Steve. Alors tout d'abord, je remercie la librairie Mola de me faire le plaisir de présenter mon ouvrage devant vous aujourd'hui. Alors cet ouvrage que j'ai intitulé Le corps accidenté, bouleversement identitaire et reconstruction de soi est donc paru aux presses universitaires de France l'année dernière, donc en octobre 2015. C'est un travail remanié de mon travail de thèse, donc cet ouvrage est un ouvrage condensé de ce que j'ai fait dans ma thèse. Alors pour cette présentation, je reviendrai rapidement sur l'itinéraire que j'ai suivi et que j'ai choisi pour aborder le sujet, le corps accidenté, en vous donnant des éléments importants qui ont agencé ma réflexion du début jusqu'à la fin. Et j'expliquerai donc quelle a été ma démarche, cela en rappelant quels étaient les enjeux qui ont motivé ma réflexion. Et puis, je reviendrai aussi sur la méthodologie que j'ai choisie pour m'appuyer. Et enfin, j'essaierai aussi de vous donner quelques éléments de délimitation de la recherche bien vaste concernant ce sujet, qui est un sujet général sur le handicap. Alors, de manière générale, dans ce travail, il a été question d'explorer la problématique du handicap physique à partir d'une analyse philosophique de l'accident et du corps accidenté. Alors, la construction de soi, qui a été traitée à partir des bouleversements identitaires que j'ai choisis, notamment par le biais de plusieurs blessures sur lesquelles je reviendrai, constitue donc le fil directeur de ce livre. Alors, tout d'abord, les enjeux. Un premier enjeu était de penser une philosophie du handicap à partir d'une philosophie du corps et en particulier à partir du corps accidenté et pour ainsi contribuer à une philosophie générale du corps. Plus généralement, ces recherches ont donc relevé d'un questionnement de philosophie générale. Il m'est apparu clair que les thématiques de l'accident et du handicap accidentel, donc le handicap physique, faisaient intervenir presque tous les champs de la philosophie, passant de la philosophie de la médecine à l'éthique, de l'esthétique à la métaphysique et de la phénoménologie. Penser ainsi l'accident corporel, c'était finalement pour moi m'appuyer sur ce que Marcel Mauss appelle un phénomène total, un fait social total. Pour moi ici, c'était un phénomène philosophique total, à savoir que tous les domaines de la philosophie sont concernés. Mon livre réinterroge donc le statut philosophique du corps à partir d'un type particulier de modification corporelle, les modifications accidentelles. Alors, l'expérience de l'accident m'a effectivement semblé décisif pour penser le rapport contemporain au corps. Dans cette épreuve, qui est une épreuve singulière, l'épreuve de l'accident, le corps se retrouve soudainement remis en question dans son unité. Et j'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir plus loin, et c'est par cette soudaineté, par ce biais-là, que j'ai pu apporter une réflexion sur ce rapport contemporain au corps. Le second enjeu était de penser, de concevoir le handicap à partir d'une cause possible, l'accident. J'aurais pu choisir la maladie, j'ai choisi d'approcher le handicap à partir de l'accident. J'approche donc cette thématique à partir des causes, et moins à partir des conséquences, quand bien même je les aborde à travers la notion de reconstruction de soi, mais il m'a semblé, en tout cas, que le sens donné à ces causes, donc maladie et accident, définit au moins en partie le sens donné au handicap lui-même. Le sens donné aussi à cet accident a permis de définir en tout cas le cadre de sa prise en charge et a permis aussi de délimiter des champs possibles pour la personne handicapée. À partir de cette matrice conceptuelle, mon travail a donc consisté à élaborer un questionnement philosophique du corps accidenté au confluent des théories du handicap et celles qui traitent des notions d'identité et de reconstruction de soi. Un troisième enjeu était dans ce travail de penser une transformation corporelle non voulue. Alors, les transformations corporelles produites par l'accident arrivent effectivement en dépit de toute volonté humaine, malgré les progrès technologiques, malgré les dispositifs sociaux, et ou encore une volonté constante d'en réduire les risques. Donc, ce rapport accident-handicap ne se situe pas hors de la société ni en marge. Du fait des progrès de la médecine, du fait qu'on assiste à un nombre plus important de guérison des maladies mortelles et des accidents graves, ce progrès va entraîner des problèmes nouveaux, puisque finalement, les malades qui sont sauvés restent souvent gravement handicapés d'une manière ou d'une autre. Ce travail, il répond à un certain nombre de questions que je me suis posées. Tout d'abord, une question qui paraît simple, qu'est-ce qu'un accident ? Puisque cette notion est d'abord une notion inscrite dans une histoire philosophique riche et ancienne. Une autre question celle de savoir comment le corps abîmé serait perçu et accepté par les autres, mais par l'individu blessé lui-même. Cette question va revenir à se poser finalement la question de savoir comment replacer ce corps parmi les autres, une fois que l'individu blessé sort de l'étape des soins, etc. Une autre question qui a motivé ce travail et que je me suis posée tout au long de ma réflexion, c'est comment finalement ce dernier, l'individu blessé et qui se retrouve accidentellement dans cette situation, va-t-il éprouver, concevoir le passage d'un corps valide à un corps handicapé ? Comment finalement on peut envisager le passage d'un corps dit normal, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière cette idée de corps normal, à un corps différent. Finalement, c'est aussi se poser la question de comment on peut envisager, appréhender ce handicap dans sa chair et dans son intimité. Dès lors, il faut réviser le concept de normalité, etc. Une autre question consistait à se demander comment un individu peut-il construire une identité personnelle à partir de données corporelles contradictoires, attachées, dans le cas de l'accident, à un avant et à un après-accident. L'accident en affectant le corps, et c'est un présupposé qui a motivé ma réflexion, engendre nécessairement des répercussions sur l'identité de la personne accidentée. Et j'ai donc envisagé cette notion d'identité comme toujours et intégralement en devenir, comme plastique et donc susceptible d'être détruite et reconstruite. La relation donc identité-accident que j'ai traitée était ainsi pour moi l'occasion de repenser globalement l'identité personnelle et globalement je l'ai repensée dans un contexte de fragilité, de vulnérabilité, ce contexte donc du handicap accidentel. Alors, comment, pour répondre à ces questions, de quelle manière il a fallu que je travaille pour m'en sortir avec toutes les thématiques, enfin toutes les disciplines qui ont été convoquées. J'ai essayé en tout cas de convoquer un certain nombre de disciplines en dehors de celles de la philosophie. Alors, pour vous donner quelques délimitations de mon champ de recherche, je commence d'abord par une première délimitation qui était essentielle, c'était de délimiter la notion d'accident. Effectivement, l'accident, comme je l'ai dit, est un concept central de l'histoire de la philosophie. Il se définit d'abord chez Aristote relativement à la substance qui assure la permanence des êtres. des êtres vivants. Et il contribue non seulement donc à la pensée de l'être, mais aussi à la pensée, à celle du sujet. Autrement dit, l'accident peut venir modifier un être de multiples façons sans pour autant affecter son identité. Par exemple, un homme amputé d'une jambe ne devient pas pour autant un autre homme. Mais l'accident, c'est aussi un mot du langage courant avec de multiples acceptions. Au sens large, tout événement peut être décrit comme un accident. Et dans sa définition courante que je donne, l'accident est simplement un événement contingent, sans motif apparent, affectant une personne ou un groupe de personnes en interrompant le déroulement normal, probable ou attendu du temps. Plusieurs façons de concevoir l'accident répondent précisément à cette définition. Autrement dit, on peut en tout cas retirer de cette définition que l'accident est présenté comme fâcheux, comme ce qui n'aurait pas dû se produire. Il peut aussi être associé à l'idée plus ancienne de fatalité. Quoi qu'il en soit, l'accident peut frapper chacun d'entre nous, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre statut. Aussi, l'accident a le pouvoir de venir rompre avec l'idée de continuum attendu et espéré de ce qu'on appelle couramment vie normale. Il vient rompre avec l'histoire personnelle telle que l'individu se la représentait. Alors, en partant de cette définition, celle que je vous ai donnée, finalement, la victime d'un accident, puisque dès lors qu'elle a subi cet accident, elle le devient victime au sein de la société. Cette victime est porteuse d'un traumatisme et va devoir se reconstruire à partir d'une identité personnelle altérée. L'accident est donc par nature un phénomène qui altère l'objet sur lequel il agit. L'idée de changement va être décisive pour comprendre ce corps accidenté. Et l'accident, par le fait même qu'il produise une fulgurance, par le fait même qu'il produise cette soudaineté, ne saurait se définir en dehors du temps. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pour cette raison que le temps, la temporalité de l'accident, va donner du sens à ce phénomène. Catherine Malabou, d'ailleurs, dans son ouvrage sur l'ontologie de l'accident, le définit comme une improvisation existentielle, l'accident se révélant en effet comme menace pour notre existence. Il n'est jamais qu'en puissance, on peut prévenir les risques, mais on ne peut pas l'éviter, ou on peut l'éviter de justesse, mais en tout cas, lorsqu'il frappe la matière sans discernement. Une autre délimitation de recherche, enfin de concept que j'ai effectué dans ce travail, c'est de délimiter ce que j'entendais par handicap. Ici, précisément, dans cet ouvrage, il ne s'agit que du handicap physique. J'ai effectivement concentré mon attention sur le handicap physique et plus précisément sur les blessures visibles portant atteinte à l'intégrité du corps. Alors, c'était une façon de parler du handicap corporel qui, en fait, est un handicap laissant, enfin, une blessure laissant des séquelles physiques irréversibles. Cette attention particulière que j'ai portée aux blessures physiques visibles laisse donc de côté toutes les autres relatives au handicap psychique, par exemple, mais aussi laissant de côté les accidents génétiques ou les accidents, les petits accidents de la vie quotidienne qui ne laissent pas de traces irréversibles. Je me suis donc restreinte au cas où les séquelles étaient vécues par les personnes dont la capacité consciente était restée intègre après l'accident. Du coup, l'altération de la conscience pose effectivement, à mon sens, des problèmes philosophiques passionnants, mais de toute autre nature. Mon travail ne porte pas non plus sur le handicap physique dont la cause n'est pas accidentelle, comme je l'ai dit, et il s'agissait d'observer clairement des blessures suffisamment graves pour entraîner de véritables bouleversements dans l'identité et qui amènent à poser la question d'une reconstruction. Je passe maintenant à ma méthodologie pour effectuer ce travail. Il m'a fallu convoquer un certain nombre de disciplines et utiliser un certain nombre de matériaux. Alors, l'exigence philosophique de cette réflexion impliquait, il me semble en tout cas, nécessairement au recours à une forme d'interdisciplinarité. Le recours à des disciplines multiples m'a demandé une vigilance épistémologique et méthodologique particulière. Pourquoi ? Parce que finalement, dans ce travail, il m'a fallu me concentrer sur des matériaux qui n'étaient pas des matériaux philosophiques, donc la philosophie qui est ma discipline qui est de base, mais il a fallu que je m'appuie sur des concepts et des matériaux envisagés et élaborés par des anthropologues, notamment, par des sociologues et aussi par des psychologues. Pour autant, il était clairement important pour moi que ce travail reste avant tout un travail philosophique. Il n'y a donc pas dans ce livre une partie sociologique ou une partie juridique ou une partie médicale, mais bien l'utilisation philosophique de concepts et de matériaux issus de ces disciplines. Ma conception du handicap, elle s'est inspirée notamment de la sociologie interactionniste de Erving Goffman et de sa vision du handicap en termes de stigmates. J'ai repris en effet chez Goffman l'intuition selon laquelle les interactions entre valides et handicapés sont intrinsèquement ambivalentes. Alors chez Goffman, le stigmate produit du trouble et de l'incertitude dans le jeu des interactions entre les valides et les personnes en situation de handicap. Les valides, en tout cas dans ce que Goffman nous offre, vont réagir à cette altérité en déconstruisant le jeu social. Ils remettent ainsi en cause les rôles implicites joués par chacun. C'est ainsi que le stigmate va remettre en question, en quelque sorte, l'humanité même de celui qui porte ce stigmate. Le stigmate le stigmatisé en particulier, pour l'exemple ici choisi, le défiguré, j'en ai choisi d'autres, des exemples, j'y reviendrai, par définition n'est plus tout à fait humain et n'a plus tout à fait, en tout cas, sa place. Il est dans une situation, dit-il, liminale, c'est-à-dire ni tout à fait normal, ni tout à fait différent. Il est au seuil de ces deux caractéristiques. L'anthropologie et l'histoire ont été également convoquées dans ce livre. Je me suis notamment appuyée sur les travaux d'Henri-Jacques Sticker, qui est un anthropologue français, qui a écrit un ouvrage remarquable sur l'histoire de l'infirmité. À ma connaissance, il n'existe pas d'équivalent retraçant l'histoire du handicap depuis les premiers concepts, celui du monstre qui, longtemps, a été celui qu'on utilisait pour évoquer le corps transformé, le corps dit monstrueux. Alors, dans cette histoire... Donc, dans cet ouvrage qui s'intitule « L'histoire de l'infirmité », on retrouve l'idée qu'il y a effectivement ce concept, cette situation liminale que je viens d'évoquer. Ce concept de liminalité définit ainsi le handicap comme situation de seuil ou d'entre-deux qui va se traduire par la difficulté à attribuer un espace social à la personne qui va se retrouver en situation de handicap. Puis, je me suis appuyée aussi sur la médecine, la chirurgie, la psychologie, pour définir la spécificité de trois blessures ou traumatismes sur lesquels je me suis appuyée. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quels ont été les matériaux essentiels sur lesquels j'ai pu travailler ? Bah, ces matériaux sont des matériaux qui étaient existants. Je n'avais pas mon propre terrain. Je me suis appuyée sur des matériaux diversifiés, issus donc d'abord de la sociologie. Je me suis appuyée sur un certain nombre d'enquêtes sociologiques, un certain nombre d'entretiens, mais aussi sur des films de fiction, sur des témoignages autobiographiques de personnes accidentées et sur des romans. le choix de ses films ou le choix de ses romans n'avait pas pour objectif d'indiquer quels étaient les meilleurs qui parlaient le mieux du handicap, mais bien d'utiliser ces matériaux comme des outils heuristiques. J'ai fait de ces matériaux des matériaux philosophiques le temps que je les utilisais. En cela, je me suis rapprochée de la démarche de Stanley Cavell, un philosophe américain, qui traite du réalisme au cinéma et sur l'idée du croisement philosophie et cinéma. Pour lui, le cinéma ne représente pas la réalité, mais la présente. Et c'est de cette manière que j'ai envisagé, moi, de traiter du handicap. Quant à la réalité, et d'utiliser en tout cas le cinéma pour illustrer mon propos. Quant à la littérature, elle a été utilisée selon la même approche qu'en fait Martha Nussbaum, philosophe américaine, philosophie qui fait de la philosophie morale et qui a utilisé aussi la littérature comme inséparable finalement pour elle du contenu philosophique. Cette philosophie qui est finalement partie prenante de la recherche et de l'expression de la vérité. Dans son ouvrage, je fais référence ici à son ouvrage « La connaissance de l'amour » qui a été traduit en 2010. J'ai aussi utilisé des fictions lorsque celles-ci me semblaient développer un discours ou une vision originale sur le handicap accidentel et sur la reconstruction identitaire. Ces fictions, elles ont été pour moi des expériences de pensée plutôt qu'une manière d'enquêter sur les représentations sociales du handicap ou de l'accident. Alors, dans un premier temps, dans cet ouvrage, je définis le corps accidenté à travers une histoire des dénominations et de ses conséquences, toujours en m'appuyant sur cet ouvrage d'Henri-Jacques Sticker, où l'on voit effectivement évoluer le concept de monstruosité, d'infirmité, vers un concept qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, de handicap, qui correspondent finalement à différentes phases historiques du corps dit anormal, allant de son exclusion radicale à son acceptation progressive. J'y explore la figure du monstre, la notion d'infirmité qui pose la question finalement de la renormalisation des corps infirmes et de leur réintégration. Puis, donc, j'interroge cette notion de handicap plus moderne, mais néanmoins pas univoque, ni même un concept stable. Cette notion de handicap, elle remet effectivement la notion de personne au centre du dispositif, mais elle se définit essentiellement selon trois niveaux de conséquences, la déficience, c'est-à-dire l'atteinte du corps, l'incapacité, la limite de l'accomplissement des activités quotidiennes et l'idée de désavantage, c'est-à-dire les problèmes sociaux qui en résultent, donc l'environnement dans lequel la personne en situation de handicap doit vivre. Donc cette définition du handicap, elle est clairement dépendante de son histoire et il faut, pour comprendre ce qui s'y joue, convoquer donc cette histoire et voilà ce que j'ai fait en tout cas en premier lieu. J'ai ensuite consacré, en tout cas, un chapitre sur un essai de distinction entre corps malade et corps accidenté. Cette distinction, elle s'est faite dans une perspective de soins et de prise en charge médicale du corps. Dans ce chapitre, je porte une attention particulière aux causes possibles du handicap, donc la maladie et l'accident, comme finalement donnant sens au handicap lui-même, mais je l'ai déjà dit. L'accident et la maladie peuvent toutes les deux être un phénomène de rupture dans la vie d'une personne, mais toutefois, je fais l'hypothèse que l'accident entretient un lien particulier avec l'instant, une forme de violence de l'instant qui rend l'expérience du handicap différente de celle de la maladie, quand bien même la frontière est extrêmement mince entre ces deux causes il est parfois difficile effectivement de voir quelles sont les différences de reconstruction de soi entre ces deux causes, mais nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir. Donc, pour définir le corps accidenté, je me suis appuyée sur l'idée empruntée par Hakan Guillem dans Normal et pathologique, cette idée d'autres allures de la vie pour désigner la maladie ou l'accident accidentel, le handicap accidentel, pardon. Cette idée, elle s'oppose à une conception du pathologique comme variation vis-à-vis de l'état normal d'un individu. Toujours dans l'idée qu'il faut effectivement rendre cette expérience d'abord comme expérience vécue, expérience subjective. Alors, je passe maintenant à l'analyse des blessures que j'ai envisagées dans cet ouvrage, puisque j'ai en fait choisi trois types de blessures significatives, à mon sens. J'aurais pu en choisir d'autres, mais j'ai effectivement choisi, dans l'ordre, d'analyser la blessure médulaire, puis l'amputation et enfin la défiguration. Finalement, ces trois types de blessures étaient pour moi l'occasion de voir comment, en fonction des blessures, l'identité personnelle pouvait être ébranlée et quels étaient leurs points communs et leurs différences. Pourquoi avoir finalement choisi ces trois blessures plutôt que d'autres ? Outre le fait qu'elles peuvent toutes profondément altérer l'identité personnelle de l'individu blessé, à mon sens, ces blessures peuvent modifier visiblement, enfin, c'est pas à mon sens, c'est d'ailleurs le cas, de modifier visiblement et de manière radicale le corps, et, d'emblée provoquer un stigmate physique. Pour chacune de ces blessures, je me suis efforcée d'abord de décrire les enjeux médicaux généraux de chacune de ces blessures et, en second lieu, d'analyser quelle était l'épreuve corporelle qui les singularisait chacune, donc respectivement. J'ai essayé, par ces analyses, de montrer dans quelle mesure telle ou telle figure du handicap physique il y avait l'incarnation particulière, particulièrement parlante, du corps accidenté. Ces trois blessures m'ont permis d'avoir un regard aussi sur les progrès biomédicaux et technologiques, cela finalement au-delà de l'expérience commune de la perte, qui vise en cela une réintégration sociale. Donc j'ai traité notamment des prothèses, qu'elle aille du fauteuil roulant jusqu'aux prothèses de jambes. Et j'ai traité également des réparations chirurgicales telles que la greffe, en particulier dans cette troisième blessure qui est la défiguration. Alors, je me suis d'abord attachée à décrire l'expérience de la blessure médulaire, qui se caractérise par la perte de mobilité, dont la particularité est d'être irrémédiable. Blessure médulaire qu'on définit le plus souvent par la paraplégie ou la tétraplégie en fonction de l'atteinte partielle ou totale du corps. Alors, il existe peu de cas où l'on constate une récupération du corps antérieur à l'accident. Il existe effectivement des cas où il y a une récupération, mais dans la majeure partie du temps, l'état du blessé médulaire est un état définitif, un état sans retour. Il n'y a donc pas de guérison, il n'existe aucun traitement, du moins sorti des soins, des premiers soins donnés à l'individu qui a subi l'accident. Donc l'individu blessé va être à la fois celui qui va faire l'expérience d'un nouveau corps et qui va également devoir comprendre qu'il ne récupérera pas son état corporel antérieur. C'est donc la rééducation qui va jouer ici un rôle essentiel dans le processus de réappropriation du corps, mais le blessé va aussi, de son côté, devoir fournir un maximum d'efforts, des efforts incommensurables pour s'accommoder à son nouvel état corporel, notamment à l'usage du fauteuil roulant, pour tenter de retrouver un minimum d'autonomie physique et de retrouver ainsi un nouveau potentiel corporel. Je cite d'ailleurs ici Jean-Luc Simon, qui est qui a écrit un ouvrage sur sa propre expérience de paraplégique, un ouvrage qui s'intitule « Vivre après l'accident ». Il dit, à propos de son expérience de la paraplégie, « J'avais brusquement l'impression d'être terrifiant, transparent et très important. Je ne me reconnaissais pas dans ces images et mes interlocuteurs me semblaient ne plus me voir. J'étais toujours le fils de mes parents et je restais façonné par la même histoire, mais le jeune homme qui courait les montagnes était mort. J'existais à présent dans un corps aux capacités et aux limitations différentes. Le regard des autres avait changé et ceux qui me faisaient face s'entretenaient gauchement avec un personnage que je ne connaissais pas, l'handicapé. Un peu courtisé autrement que par charité, ai-je rapidement constaté. C'est tout le paradoxe de l'invalidité traumatique, être différent tout en restant identique à soi-même et aux autres. Voilà pour la blessure médulaire. Je passe maintenant à la seconde blessure. Alors, quant à l'amputation, je me suis interrogée sur les répercussions que cette blessure pouvait engendrer chez le sujet blessé lorsque celui-ci faisait l'expérience d'un corps fragmenté. J'y décris l'expérience du moignon, qui dégoûte et, dans la plupart des descriptions sur lesquelles je me suis appuyée, qui est un peu le phénomène traumatique de l'individu blessé, mais pas seulement, sur le phénomène aussi du membre de fantôme sur lequel je me suis appuyée pour montrer quelles étaient finalement les conséquences d'un refus du corps mutilé par le blessé, pour le blessé. Alors, la troisième blessure que j'analyse est donc cette blessure tant redoutée qui, pour le coup, arrive en dernière analyse, qui est la blessure du visage. Elle est la plus redoutée parce que la plus extrême de toutes, parce que la plus spectaculaire. Et puis parce que, précisément, on attribue de manière habituelle le rôle de support identitaire au visage. Alors, cette partie du corps, pourquoi précisément elle prend cet aspect de rôle de support identitaire? C'est parce que le visage est découvert, parce que le visage est la partie du corps où l'on perçoit l'identité, la personnalité, les traits de caractère. Donc le visage est donc par excellence ce qu'on pourrait appeler une partie signifiante de l'individu. Et c'est par cette partie du corps que on peut envisager un certain nombre de choses, la psychologie de l'individu, etc. On pourrait en discuter. Je cite David Le Breton dans son ouvrage « Des visages » qui désigne en effet la défiguration de la manière suivante. « La défiguration est un handicap d'apparence, une amputation de l'identité personnelle et sociale. L'infirmité qu'elle signale tient en l'altération profonde des possibilités de relation. » Donc, finalement, ici, il y a quelque chose d'extrêmement important sur laquelle, finalement, cette chose, je me suis appuyée pour développer ce chapitre sur la défiguration, c'est de penser la défiguration d'une manière différente que ce corps blessé par... que la blessure médulaire ou l'amputation, à savoir une blessure qui, finalement, est une blessure pas tant pour l'individu lui-même, mais surtout pour l'apparence, donc pour la manière dont il sera reconsidéré par les autres et la manière dont il va être amené à retrouver la société une fois son visage modifié. Alors, malgré les progrès techniques en matière de reconstruction faciale, une histoire passionnante d'ailleurs de cette reconstruction faciale que je n'évoquerai pas ici. J'envisage d'ailleurs cette histoire à partir de l'ouvrage de Sophie Delaporte qui parle des gueules cassées de la Grande Guerre. Ces progrès techniques finalement ont amené un certain nombre de nouvelles façons d'envisager cette blessure, jusqu'à la grève du visage, jusqu'à aujourd'hui, on arrive encore à penser cette blessure complètement différemment grâce à ces progrès techniques. Mais il semblerait malgré tout que le mutilé du visage ne parvient pas toujours et même souvent rarement à retrouver sa place au sein de la société, tout simplement parce qu'il se sent extrêmement isolé et il ne se sent pas précisément capable de s'exposer aux autres. Je cite un roman qui m'a beaucoup inspirée, c'est le roman d'Anthony Casas-Ross, qui s'intitule « Le théorème d'Elmodovar ». Il dit, donc, à propos du protagoniste qui a eu un accident de voiture et qui se retrouve défiguré du jour au lendemain, il dit la chose suivante, « Le destin m'a fait cadeau de me tuer très tôt pour que je commence à vivre. Tu es dans ma chair, tu es dans mon visage, mais pas dans mon âme. » Toujours dans le même roman, il dit la chose suivante, « Un homme sans visage est un pronom indéfini. » Ce qui est extrêmement fort, puisque l'utilisation du pronom indéfini est particulièrement évocatrice, au moins pour deux raisons. Elle rappelle que la fonction du visage est un lieu de reconnaissance du jeu. Ce que je viens de dire, c'est que précisément, un certain nombre de défigurés, en m'appuyant toujours sur les autobiographies que j'ai utilisées, mais aussi sur les romans, ne retrouvent pas leur place parmi les autres. Et le « on », l'utilisation du « on », ce pronom indéfini pour désigner le blessé, finalement, va donner à l'individu un caractère incertain, une identification impossible. Pour ne plus subir les regards, la personne défigurée va choisir de se couper du reste du monde. Et encore une fois, je me réfère ici à ce roman, « Le théorème d'Elmodovar », qui dit, à un moment donné, « Depuis 15 ans, personne ne m'a vu. Pour avoir une vie, il faut un visage. Un accident a détruit le mien et tout s'est arrêté une nuit à 20 ans. » Par l'étude de ces épreuves corporelles, j'ai donc proposé de revenir sur la relation essentielle du corps et de l'identité personnelle. Finalement, en essayant de montrer que le sentiment d'identité pour une personne blessée n'était pas préservé en dépit des changements corporels, mais par ces changements. Notre identité, elle cesse de se construire avant et avec et par les événements, et c'est de cette manière que j'ai conçu, en tout cas, l'idée d'une identité, l'idée de reconstruction identitaire, c'est-à-dire à partir d'une identité dite plastique, performative. Et il ne s'agit donc pas, pour le blessé, de la manière, en tout cas, dont je l'ai traité à travers ces trois blessures, d'essayer de raccommoder deux parties d'une même vie. Donc, la reconstruction de soi après l'accident, la manière, en tout cas, dont moi je l'ai traité, constitue une sorte de renaissance, comme j'ai pu vous le donner à travers ces différentes citations, cette renaissance prenant source dans l'événement fondateur qu'est l'accident. Je montre, par ailleurs, en tout cas, je pense l'avoir montré, que la reconstruction identitaire des accidentés, elle est double. Elle concerne à la fois la réparation du corps et elle concerne l'adaptation d'un individu à une situation corporelle nouvelle. Donc voilà, en espérant que cette présentation aura su éclairer mon propos et ma démarche, je vous remercie d'être là.